12h15.
RFJ Info.
Le journal de Marceline Michon.
Bonjour. Grégory Pressaco pilotera les travaux de la patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs. L'actuel maire de Fontenay vient d'être nommé responsable technique au syndicat intercommunal du district de Port-Antruy. Des restrictions d'eau touchent toute la région des Franches-Montagnes. Les autorités comptent sur la responsabilité des consommateurs. Plusieurs jours de précipitations seraient nécessaires pour remplir les réserves. La Nati s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations hier soir. Un exploit acquis 5-2 à Lucerne face à la Belgique. Les footballeurs helvètes n'avaient plus gagné un match après avoir été menés par 2 buts d'écart depuis 80 ans. De faibles chutes de neige sont attendues cet après-midi jusqu'en plaine. Demain, 1 à 3 cm d'or blanc pourrait tomber au-dessus de 600 mètres. Il fera 4 degrés à Delémont et Port-Antruy, 3 à Seignelégier. Nouvelle étape vers la rénovation, l'assainissement et l'agrandissement de la patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs. Le syndicat intercommunal du district de Port-Antruy a nommé Grégory Pressaco au poste de responsable technique. L'actuel maire de Fontenay aura pour mission de piloter techniquement et administrativement les travaux liés à la patinoire. Raphaël Chalvera, vous êtes justement en compagnie du nouveau responsable technique du SIDP.
Bonjour Grégory Pressaco.
Bonjour.
Nouveau défi pour vous, important, hein, il y a la patinoire à Port-Antruy au bout. Comment est-ce que vous l'abordez ce défi ?
Alors je l'aborde un défi, oui, comme vous dites, important, difficile. Malgré tout, ça reste un grand chantier. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, un important chantier avec les défis principaux seront les finances, la technique, le planning. Voilà, mais ça reste un important chantier.
Alors justement, je voulais vous interroger sur les tâches principales, parce que ça va quand même s'étaler dans la durée. Quelles seront, on va dire, vos premières missions comme responsable technique du SIDP ?
Alors ma toute première mission, ça sera de prendre connaissance de tous les dossiers dans le détail, les dossiers techniques, puisque aujourd'hui j'étais membre du comité du SIDP, donc une partie des informations je les ai, mais c'est clair que je ne faisais pas partie du comité de pilotage de la patinoire, donc il y a beaucoup de dossiers annexes qu'il faudra que je prenne connaissance pour pouvoir me lancer à fond dans cette tâche.
Première chose pour cette patinoire, c'est le respect du calendrier. Les travaux doivent démarrer le printemps prochain, puis le projet être livré en octobre 2020 pour la première patinoire. Être dans les temps, vous allez y veiller ?
Bien sûr, c'est primordial. C'est un des éléments les plus importants. Voilà, gros défi. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait des travaux, on va dire, en maintenant une exploitation, quelle qu'elle soit, hein, dans un bâtiment. Donc voilà, c'est un challenge, c'est clair. Mais voilà, on va s'assurer avec tous les professionnels qui sont là autour pour que ça fonctionne.
En fait, vous serez un petit peu le fil rouge là au milieu, d'être en contact permanent avec toutes les personnes qui vont participer à l'élaboration de ce projet de patinoire. C'est un peu comme ça qu'on doit décrire votre rôle ?
Oui, absolument. Et puis, c'est aussi l'aspect analyse technique, on va dire, des dossiers. Et puis, apporter un soutien, en fait, aux politiques dans le domaine du technique du bâtiment.
Et puis, il y a aussi l'aspect financier. Ce projet global est devisé à 28 millions de francs. La gestion du porte-monnaie, c'est aussi finalement capital que la gestion du temps.
C'est tout autant capital que le temps, si ce n'est plus, puisque la population a voté un crédit avec un montant et le SIDP s'est engagé à respecter ce montant. Donc, ça sera une des thématiques la plus importante, je pense, de ce projet.
Et vous qui êtes responsable du bâtiment, ce devis de 28 millions, il est raisonnable ? Vous l'évaluez tout à fait possible, tenable ?
Alors, dans tous les documents que j'ai pris connaissance aujourd'hui, je pense que c'est un devis qui tient la route. Et puis, ça sera à nous maintenant, moi en tant que responsable technique, mais aussi le comité par rapport à ces décisions politiques, de faire en sorte de rester dans ce cadre qui a été accepté par le peuple.
Alors, pour le SIDP, il y a certes le dossier de la patinoire, mais pas seulement, vous aurez d'autres tâches à accomplir, évidemment.
Oui, absolument. C'est aussi une des raisons de mon choix de me porter candidat à ce poste. Alors, il y a la patinoire, clairement, c'est le gros dossier de ces prochaines années, mais il y a d'autres thématiques que le SIDP traite, notamment la distribution d'eau potable, la gestion des déchets. le plan directeur régional, et j'espère, en tout cas j'en suis convaincu, qu'à terme d'autres dossiers vont venir sur la table du SIDP.
Et dans votre carrière professionnelle, vous me disiez tout à l'heure hors antenne, vous avez déjà touché un peu à tout, donc ça c'est clairement un avantage pour reprendre un petit peu ce poste de responsable technique.
Alors oui, effectivement, donc j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, que ce soit les réseaux de distribution, les routes, les bâtiments, l'aménagement du territoire un petit peu, les déchets, actuellement ma fonction de membre du comité du SIDP en charge de l'environnement et notamment de la gestion des déchets ont fait que j'ai pu prendre connaissance à fond de ce dossier-là.
Alors, un dernier mot, Grégory Pressacco, vous êtes aujourd'hui maire de Fontenay. Vous allez remettre ce mandat, l'abandonner en février prochain. Être responsable technique du SIDP et maire, ce n'est pas compatible?
Alors non, parce que responsable technique du SIDP, je serai employé du SIDP, donc je ne peux pas être des deux côtés de la table, on va dire. Donc clairement, la première chose, on va dire, le dossier patinoire va être un dossier conséquent qui prendra beaucoup de temps, énergivore en temps et en énergie. Et puis, on ne peut pas être du côté politique et employé en même temps. Pour moi, c'est pas compatible.
Un petit crève-cœur quand même d'abandonner la mairie?
Un petit peu quand même, oui, bien sûr. Ça fait maintenant 11 ans que je siège au sein du conseil communal, depuis 4 ans en tant que maire. C'est vrai que c'est toujours plaisant. On avait des collègues de conseil avec qui c'était agréable de travailler, aussi des employés communaux. Et puis j'ai toujours eu à cœur aussi de donner un peu de mon temps et de mon énergie pour la collectivité. Alors je le ferai d'une manière un peu différente, on va dire. Mais c'est vrai que petit crève-cœur quand même.
Merci à Grégory Pressacco d'être venu en direct sur RFJ. Bonne journée.
De rien, bonne journée.
Et merci à vous, Raphaël. L'eau se fait de plus en plus rare dans les franches montagnes. Le Noirmont a transmis un communiqué de presse à la population ce matin. Il appelle à consommer l'or bleu de manière modérée. Mais la restriction concerne toutes les communes franc-montagnardes et quelques communes du Jura bernois desservies par le syndicat des eaux des franches montagnes. Les précisions de Caroline Toussaint.
On aura eu un été très ensoleillé et très sec. Conséquence, un appel à la population. Il faut consommer l'eau avec modération. Un appel déjà lancé au début de l'automne et qui se poursuit en plein mois de novembre, ça a de quoi surprendre. Pierre-Alain Barthes, directeur du syndicat des eaux des Franches-Montagnes, l'admet.
Effectivement, on peut considérer ça que c'est un cas assez exceptionnel. Bien que ça fasse 3-4 années qu'on a un déficit plutôt en fin d'année qu'en été comme on a eu en 2003.
Un déficit d'eau qu'il faut réussir à gérer avant les périodes de grand froid, selon Pierre-Alain Barthes.
Alors le gros problème, c'est que si on a les grands froids avant des précipitations conséquentes, on aura des problèmes pour que l'eau pénètre dans la terre à nouveau pour réalimenter les nappes et les sources.
Pour que les sources et nappes se renouvellent, la population peut donc y mettre du sien en limitant sa consommation d'eau.
On compte naturellement sur le sens des responsabilités en fait de chaque utilisateur, qu'il réduise au maximum son utilisation quotidienne.
Autre solution, il faudrait que la nature s'en mêle.
Pour qu'on puisse, passer l'hiver tranquille, il faudrait déjà au minimum 15 jours de précipitation.
Une solution qui paraît plutôt compromise les prochains jours. Même si la pluie devrait être au rendez-vous, les précipitations ne seront pas assez importantes pour que les nappes et les sources retrouvent à nouveau un niveau convenable.
On reste dans les franches montagnes. Le budget 2019 de Seigneux-Légier est dans le rouge. Il prévoit un déficit de 311 000 francs. La mouture sera soumise aux citoyens du chef-lieu franc-montagnard lors de l'Assemblée communale du 28 novembre prochain. Les précisions de Mathieu Schaffner.
Seigneux-Légier reste donc dans le rouge, mais la commune indique n'avoir aucune emprise sur le déficit annoncé. Primo, elle participe aux mesures de recapitalisation de la caisse de pension du Jura à hauteur de 56 000 francs. Dezio, elle ne perçoit plus de montant du fonds de la péréquation pour l'an prochain. La différence est de 132 000 francs par rapport à cette année. Tertio, Seigneux-Légier reçoit nettement moins de l'action sociale au regard des derniers décomptes. La différence est ici de 221 000 francs par rapport à cette année. Les autorités communales note que le prochain budget serait clairement équilibré, sont ces trois éléments qui représentent 409 000 francs de charges. Quant aux investissements bruts, ils doivent s'élever l'an prochain à 327 000 francs. Une planification des besoins financiers sera présentée en assemblée communale.
Une virée nocturne qui aurait pu très mal tourner. Trois jeunes hommes sont confrontés au tribunal pénal à Porrentruy depuis ce matin. Ils comparaissent pour plusieurs faits de brigandage, dont un cas aggravé qui a mis la victime en danger de mort. Les faits remontent à décembre 2014 et s'étaient produits à Delémont. Vos précisions, Nina Beuret.
C'est pas moi, c'est les autres. Une phrase qui a résonné souvent ce matin dans la salle d'audience. Les trois prévenus ont raconté à tour de rôle cette nuit du 28 décembre 2014. En sortant d'une soirée arrosée, ils ont erré en voiture dans la capitale jurassienne, cherchant selon les versions à voler de l'argent ou à se battre. Selon l'acte d'accusation, ils ont racketté un passant et en ont agressé trois autres. Dans le dernier cas, la victime a été laissée ensanglantée et inconsciente dans la neige. Elle a donc risqué la mort et de graves lésions corporelles, mais a été prise en charge rapidement par la police. Aujourd'hui, du côté des plaignants, ce jeune homme dit avoir toujours des séquelles des violences qu'il a subies. Dans le récit, les prévenus se sont dit innocents et ont renvoyé chacun la faute sur les autres, en particulier sur un quatrième individu qui n'est pas présent aujourd'hui. Il était mineur au moment des faits. Dans son réquisitoire, la procureure Frédérique Comte a relevé le caractère inconstant et incohérent des déclarations des prévenus. Elle remet en doute leur crédibilité, insiste sur ce qui constitue selon elle un cas de violence froide et gratuite et demande que soit retenue la circonstance aggravante d'avoir agi en bande.
L'audience se poursuit. Plus d'informations dans nos prochaines éditions.
RFJ, les 12h26.
Le sport avec la loterie romande.
Bien joué Shaqiri, Mbabou. Centre. Oh là 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 là, le triplé d'Aris Seferovic. Mais qu'est-ce qu'on vit ce soir? Qu'est-ce qu'on vit ce soir ici à Lucerne?
On a tous dû se pincer pour y croire, on a tous cru être en plein rêve. Mais non, l'équipe de Suisse de football a bien signé un exploit hier soir à Lucerne. La Nati a pris la mesure de la Belgique 5-2, une victoire qui lui permet d'accéder à la phase finale de la Ligue des Nations. Elle aura lieu en juin au Portugal. Ce succès est historique pour les Helvètes. Ils n'avaient plus gagné un match après avoir été menés par 2 buts d'écart depuis 80 ans. Aris Seferovic a été le grand artisan de cette victoire en inscrivant un triplé. La Suisse a mis à terre la meilleure sélection du classement FIFA. Notre consultant football, Bertrand Chauffat.
Franchement, c'est la Suisse qui a gagné parce que cette Suisse-là, elle a été sensationnelle. Elle a été extraordinaire dans le jeu, dans les intentions de jouer, par l'attitude des joueurs. Les superlatifs manquent à ce moment-là parce que ce matin, je me dis vraiment, en me réveillant, je dis ben non, j'ai pas rêvé, c'est fantastique. Je peux me pincer, mais c'est la réalité.
Et la patte de Vladimir Petkovic, quelle a été sa place dans cette victoire?
Il a su réagir, ce que Martinez n'a pas su faire parce qu'à la mi-temps, la Suisse a passé à 3 derrière, a renforcé son milieu de terrain, à consolider son attaque, à libérer un petit peu, encore un peu plus, Xherdan Shaqiri, qui hier soir avait vraiment le costard d'un patron.
Tous les superlatifs sont de mise aujourd'hui pour qualifier cet exploit. Même le latéral de la Nati, Kevin Mbabou, peinait à réaliser à l'issue de la rencontre.
C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on a réalisé ce soir et on peut vraiment tous être très très fiers. Pourquoi pas rêver après une soirée comme ça? Mais voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. On a des grosses, grosses équipes qui nous attendent. On se réjouit tous du mois de juin. On est capable, voilà, on a démontré ce soir qu'on est capable de bousculer les grandes équipes, comme la Coupe du Monde, le match nul contre le Brésil. Donc on est vraiment capable de faire de grandes choses. Maintenant, à nous de confirmer ça dans les prochains matchs à venir.
Garder les pieds sur terre, c'est aussi le message que veut faire passer notre consultant football, Patrick Sylvestre.
C'est vrai qu'on attend depuis longtemps ce passage des huitièmes de finale dans un Euro, dans une Coupe du Monde. Là, c'est par le biais d'une nouvelle compétition, mais finalement, ça peut être cette confirmation-là qu'on attend depuis quand même passablement d'années, qui va certainement aussi un peu réconcilier, ça a été déjà le cas depuis le mois de septembre, mais réconcilier le public avec cette équipe. Maintenant, c'est une nouvelle compétition, elle ne donne pas encore de place qualificative pour l'Euro, il y aura encore toutes les qualifications, les vraies qualifications à faire en 2019, mais enfin, il faut quand même vraiment savourer ce moment.
Est-ce que la Suisse, elle a franchi un palier hier soir?
C'est toujours délicat. On a vite fait de s'enflammer, alors dans tous les sens du terme, quand ça ne va pas du tout. Après la Suède, c'était la catastrophe. L'équipe de Suisse était catastrophique, alors qu'elle était quand même là. Elle avait quand même répondu, passé le premier tour à cette Coupe du Monde, c'était pas si bon. Donc ça, avant de la commencer, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie. Et puis c'est un peu la même chose maintenant. Il ne faut pas qu'on s'enflamme non plus trop vite. Pour moi, il reste quand même les qualifications en 2019. Ça va être à nouveau une nouvelle campagne et ça ne sera pas simple de malgré tout encore se qualifier parce qu'on a l'habitude maintenant que ça soit acquis. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même une petite nation au niveau nombre, pas petite nation au niveau de la qualité de ce qu'on fait. Mais chaque fois, il faut remettre l'ouvrage sur le métier et repartir.
Patrick Sylvestre était l'invité de la matinale aujourd'hui. Vous retrouvez son interview complète sur rfj.ch. La Suisse disputera le tour final de cette Ligue des Nations en juin au Portugal. Elle connaîtra le nom de son adversaire en demi-finale le 3 décembre. L'association suisse de football peut déjà se réjouir. Elle remplit son porte-monnaie avec cette qualification. La Nati vient d'empocher près de 8 millions de francs et elle en touchera encore 4 si elle décroche le titre l'été prochain. Elle a 17 ans, elle est allemande, pilote de Formule 3 et totalement inconnue du grand public. Mais les images de son accident ont fait le tour de la planète. Sophia Flörsch a été victime d'un crash terrifiant hier sur le circuit urbain de Macao en Chine. La jeune pilote a été sortie vivante de l'épave de sa monoplace et peut être qualifiée de miraculée. Son accident pose toutefois de sérieuses questions de sécurité. Le commentaire de François Comte.
Sophia Flörsch a connu le pire scénario pour un pilote de monoplace. Elle a percuté une voiture qui l'a devancée en bout de ligne droite et a perdu le contrôle de sa F3, lancée à pleine vitesse, juste avant une courbe à droite. Sa voiture est partie en tête à queue, a grimpé sur un vibreur avant de monter sur une autre monoplace et de décoller dans les airs. Le bolide a défoncé les grillages de sécurité et s'est fracassé contre une tribune qui abritait des photographes. Le choc d'une violence inouïe s'est produit alors que la monoplace de la jeune Allemande atteignait 276 km/h. Sophia Flörsch est restée consciente, mais souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. Elle ne court toutefois aucun risque de paralysie, selon son père. 5 personnes ont par ailleurs été blessées dans l'accident. Le crash de la jeune Allemande doit servir de prise de conscience. Les courses sur circuit urbain se multiplient ces dernières années, notamment en Formule 1, avec tous les dangers qu'elle comporte. La FIA serait bien inspirée de revoir certains critères avant qu'ils ne soient trop tard, et qu'un carnage similaire à celui du Mans en 1955, 82 morts, n'en deuille le sport automobile.
Des images de l'accident sont disponibles sur rfj.ch. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très belle journée.
Merci Marceline, l'info en tout temps, retrouvez-la comme toujours sur rfj.ch. C'est toujours une météo hivernale et un ciel le plus souvent très nuageux que nous annonce Météo News pour la suite de cette journée, avec de faibles chutes de neige possibles jusqu'en plaine cet après-midi. Et le mercure grimpera au mieux jusqu'à 0 degré aux Franches-Montagnes et 2 degrés en plaine. Demain, il y aura de nombreux nuages et des flocons possibles durant la journée, avec des températures comprises entre moins 1 et moins 3 degrés à l'aube, pour grimper ensuite jusqu'à 3 degrés sur notre région.